L'invité de la semaine est régulièrement sur les plateaux de BFM TV, Dominique, et d'affaires suivantes, il s'agit de Maître Emmanuel Franck qui publie un ouvrage « Comment pouvez-vous les défendre ?» en collaboration avec Caroline Glorion. Bonjour Maître Franck.
Bonjour.
Vous êtes notamment connu, mais pas seulement, pour être l'avocate de Cédric Jubilard. Et dans ce livre, vous allez nous raconter vos pérégrinations quotidiennes, des parloirs aux prisons, les mois de préparation avec la cour d'assises et les doutes qui peuvent parfois être les vôtres quand on est avocat pénaliste. Et Dominique, il y a une question pour vous.
Non, en fait, c'est une question qui a été écrite par Ronald. J'aurais aimé l'écrire. Je propose de la poser et je vais la poser, mais c'est sa question.
Nous, on parle à HTML.
Oui, je vous écoute.
Elle est excellente, j'adore cette question.
Vous adorez cette question, très bien. Espérons que vous adoriez la réponse.
Je ne sais pas si vous allez l'aimer. Vous écrivez dans votre livre que plaider pour un homme coupable, c'est dans 95% des cas. D'accord ? Plaider pour un homme coupable dans 95% des cas. Ça veut donc dire que Cédric Jubilard fait partie des 5%.
C'est pas lui. Oui, tout à fait, Dominique, mais vous savez, je crois que la justice n'apprend que peu de choses de ces dysfonctionnements passés, et l'erreur judiciaire y trouve encore et toujours une place de choix, et donc nous avons malheureusement encore 5% de dossiers dans lesquels
l'innocence...
Cédric Jubilard, c'est la chronique d'une erreur judiciaire annoncée, et nous l'avons dit depuis le début, et nous continuons à le dire.
L'autre question que tout le monde vous pose que tout le monde pose souvent aux avocats pénalistes, c'est celle-là. Donc, comment pouvez-vous les défendre? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de préjugés, parce qu'il y avait des clichés que vous avez choisi d'écrire ce livre? Est-ce que c'est pour répondre à ces préjugés ou à ces clichés?
Alors, c'est pour répondre à cette question qui est peut-être la question la plus couramment posée aux avocats pénalistes. Et on est dans un domaine, le domaine criminel, on est dans un domaine qui est rempli de préjugés et où on se rend compte, où j'ai pu me rendre compte que finalement, ça n'était qu'en étant confronté à des cours d'assises que des personnes, alors soit parce qu'ils ont été jurés, soit parce qu'ils ont été membres de famille, soit parce qu'ils ont été simples spectateurs pendant un procès d'assises, on se rend compte que les préjugés tombent à ce moment-là. Et donc, moi, j'ai voulu, au travers de ce livre, faire passer les gens de l'autre côté, dans les arrières-salles des cours d'assises, dans les parloirs des prisons, au plus proche finalement des criminels et du contact que nous, avocats, nous avons de façon privilégiée avec le crime et les criminels.
Et donc, comment pouvez-vous les défendre? Il y a deux questions. La première question, c'est comment faites-vous pour les défendre? Comment trouvez-vous des arguments? Et puis, il y a l'autre question, c'est vraiment dégueulasse de défendre des gens comme ça. Comment vous pouvez faire un boulot pareil?
Oui, il y avait ces deux aspects-là dans le titre qui sont les deux aspects de cette question. Alors, il y a d'abord comment peut-on les défendre, c'est-à-dire comment peut-on trouver des arguments. Les arguments, on les trouve toujours, parce qu'en réalité, un individu est le résultat de ce qu'il a vécu et qui est en interaction avec ce qu'il vit autour de lui. Autrement dit, il y a toujours dans le crime quelque chose de structurel et quelque chose de conjoncturel. Et donc, la charge de l'avocat, c'est simplement d'expliquer, jamais justifier le crime, mais d'expliquer ce qui a pu se passer dans la tête d'un criminel. Et puis, une fois qu'on a répondu à cette question, en réalité, on a répondu à la deuxième. Comment pouvez-vous les défendre? Eh bien, tout simplement, en humanité. Et parce qu'on ne défend pas le crime, on défend le criminel. Et donc, c'est bien d'humanité dont on parle.
Votre livre commence une longue partie sur le cas d'un jeune violeur en série, présumé, qui est condamné à une perte très lourde. Et en fait, ce que vous expliquez, c'est justement cela. Mais de façon, ce qui est intéressant, c'est qu'on entre dans le concret de votre travail. C'est-à-dire qu'au-delà des concepts et de ce que vous venez nous dire, on voit comment quelqu'un qui, même lui, se défend très mal parce qu'il a une attitude, des mots, et une inconscience totale de ce qu'il a commis, et puis qu'à un moment, en fait, il y a quelque chose qui... Vous arrivez à le faire passer de l'autre côté.
Et c'est un peu ça aussi, le rôle de l'avocat, c'est parfois de défendre un client malgré lui. C'est-à-dire d'essayer de chercher, à force de discussion, à force d'échange, d'essayer de chercher ce qui a pu se passer dans sa tête, là où parfois et souvent lui-même ne le sait pas.
Mais c'est pas lourd de le faire pour lui, de quelqu'un qui a commis des crimes atroces, et je pose la question sans jugement, mais d'aller faire un travail que cette personne n'est même pas capable de faire elle-même.
Mais figurez-vous que le temps judiciaire n'est pas le temps de la psychothérapie.
Oui. C'est-à-dire que aussi,
exactement. Et c'est-à-dire que nous, pour le défendre, il faut qu'il arrive devant une cour d'assises en étant, je dirais entre guillemets, un produit fini, alors qu'on sait que le travail psychothérapeutique prend des années. Donc on essaye de faire un peu en accéléré avec lui ce qu'il fera à plus long terme par un travail, un vrai travail de fond.
Un jour, vous étiez venu chez nous dans l'affaire suivante ou dans une autre émission sur, on parlait de Cédric Jubilard. Et vous alliez plaider cette affaire. Vous prépariez à aller plaider l'affaire dont Ronald vient de parler, ce violeur en série à Toulouse. Et vous aviez eu cette phrase, parce qu'il n'a pas simplement violé. Hein. Oui, après, il s'est débarrassé de sa victime inconsciente, il l'a jeté dans une poubelle, dans un conteneur. Il a jeté son corps dans un conteneur. Après l'avoir agressé, violé, il a refermé le couvercle. Et vous aviez eu cette phrase, vous aviez dit, ça va être dur, Et la poubelle, ça va être encore plus dur. Comment est-ce que vous avez fait aller jusque-là et... Quand on vous a dit, et en plus il l'a acheté dans une poubelle. Qu'est-ce que vous avez eu comme argument pour le défendre ?
Et oui, parce que la poubelle représentait évidemment, tout le monde l'a compris, quelque chose de très symbolique et quelque chose qui était effectivement terrible, au-delà bien sûr du crime qui avait été commis. Et on est remonté dans le temps avec lui, et il est remonté dans le temps aussi. Et comme très souvent en matière de viol, le lien était à faire avec la mère. Il avait de la femme une image calquée sur celle de sa mère, et c'est ça que nous avons expliqué. Vous savez, dire on parle de l'enfance malheureuse, ça va bien au-delà de défendre un homme, c'est d'essayer de faire réfléchir les jurés sur le parcours de ce garçon qui avait calqué l'image de la femme sur l'image de sa mère. C'était une image déplorable, il y avait toute une symbolique qui allait avec, et ce n'était pas pour rien qu'il demandait à chacune de ses victimes, ouais, au démarrage, fais-moi un câlin, comme le ferait une maman. Et c'était le refus qui déclenchait le reste.
Est-ce que vous êtes consciente que, pour les téléspectateurs d'Affaires Suivantes, il y a quand même des gens qui vont dire, mais c'est déjà le début d'une excuse. Et ce que vous dites, j'ai noté la phrase, défendre, ce n'est pas excuser, rien ne justifie le crime, tout pour l'expliquer. La frontière, elle est mince. Elle est quand même mince, en tout cas pour beaucoup de personnes normales, de citoyens qui vont regarder cette émission et qui vont se dire, on est déjà dans l'excuse, donc dans la culture de l'excuse, c'est quelque chose qui revient beaucoup.
Alors on n'est absolument pas, justement, c'est ce que j'écris tout au long de mon bouquin, où je prends le soin, parce que je le pense évidemment, en permanence, de dire que rien n'excuse le crime, que je ne défends jamais le crime, considère pas le viol comme étant quelque chose de bien, encore moins le meurtre. Par contre, je défends des hommes. Et si rien n'est excusable, tout est explicable, les mots ont un sens, et c'est deux termes-là sont bien différents.
Et pire, vous êtes une avocate. Donc, on peut s'attendre à ce qu'un violeur prenne un avocat, un homme, pour le défendre. Vous êtes une avocate, donc à chaque fois que vous le défendez, ça va être un peu violent, vous faites du mal aux femmes. Alors, ou à la cause.
C'est très sexiste et très anti-féministe ce que vous êtes en train de dire. Alors d'abord, ça partirait du principe...
Moi, je parle de la cause des femmes et des femmes qui se font agresser. Donc c'est
pas... Dans ma bouche, j'ai pas dit que vous l'étiez.
Mais ça l'était pas, en tout cas.
Ça serait déjà partir d'un premier principe qui est qu'un homme trouverait que le viol, c'est moins grave que ne pourrait le considérer une femme. Déjà, je pense que sur ça, personne n'est d'accord. Et deuxièmement, je vous disais que c'était très anti-féministe parce qu'en quoi une femme serait plus atteinte de sensiblerie ou plus atteinte d'un certain nombre de choses qui feraient qu'elle ne pourrait pas défendre le viol.
Je veux dire que les femmes qui vous regardent doivent se dire elle n'est pas de notre côté. Elle ne défend pas les femmes.
Eh bien, c'est une méconnaissance totale du métier d'avocat, puisque je ne défends pas le viol, je défends un violeur. Et donc, que je sois un homme ou une femme est indifférent, et c'est la raison pour laquelle on considère toujours que les avocats n'ont pas de sexe, n'ont pas de religion, ils sont avocats, et c'est tout.
Je vous pose une dernière question, oui ou non, s'il vous plaît. Vous vouliez être psy, est-ce que c'est expliqué votre approche de ce métier-là ?
Je ne pourrais pas répondre par oui ou non, je vais faire une petite phrase, même s'il ne me reste pas beaucoup de temps. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'être psychologue pour s'intéresser aux choses humaines, et je pense que tout citoyen doit s'intéresser, aux raisons du crime et du passage à l'acte.
Merci beaucoup, Maître France.
Merci. Merci à vous.
Spectateur d'Affaires Suivantes, à votre dernier ouvrage. Merci beaucoup, Dominique. Anne Seften pour la suite du programme. Merci beaucoup.
Semaine prochaine.